La revue de presse Claude Askolovitch. Bonjour Claude.
Bonjour Nicolas.
Zinedine Zidane dans des superlatifs.
Puisqu'il est Zidane royal pour la Provence, puisqu'il a tenu le discours d'un roi pour l'équipe. Et la place que prend le départ de Zidane du Real Madrid éclipse l'espérance des joueurs vivants d'aujourd'hui, cette équipe de France qui prépare la Coupe du Monde. Pendant ce temps-là, il joue, ironise l'équipe, et oui, on en parlera plus tard. Et c'est normal, parce que nous avons avec Zidane un homme inscrit dans l'histoire. On ne sait pas toujours le prendre, parce que ses mots sont peu flamboyants, mais c'est ainsi, et le football produit ce genre d'évidence. Il y a cette semaine, dans Le Point, un très bel article d'un bel écrivain, Olivier Guèze, récent prix Renaudot, consacré à Lev Yashin, légendaire gardien de but soviétique, mort juste avant ce pays qu'il avait si bien incarné. Yashin était l'Union soviétique. Eh bien, Zidane, c'est la même chose. Il est la France par l'emprise que nous lui accordons et par la simplicité des sentiments qui l'animent. Il y a ce matin, dans la presse, deux manières de raconter Zidane. La première, spectaculaire, c'est le Parisien qui dit « Zidane sera le sélectionneur de l'équipe de France ». C'est spectaculaire, c'est de l'info. Mais en même temps, une autre manière existe, plus intime et donc plus juste. Et on doit lire dans l'équipe et dans Libération deux hommes qui ressentent la vérité des légendes. Frédéric Hermel, d'abord, dans l'équipe, raconte ceci. Au cœur de l'hiver dernier, les dirigeants du Real Madrid, sortis de la Coupe d'Espagne, dépassés en championnat, voulaient recruter pour sauver la saison. Zidane les avait empêchés de le faire. Il avait, dit Hermel, passé un pacte avec Sega au cours d'une longue réunion dans le vestiaire. L'entraîneur protégeait le groupe et empêchait la venue de nouveaux éléments. Les joueurs se mobilisaient pour tenter de rapporter la Ligue des Champions. Et c'est ce pacte entre un entraîneur et un groupe au bout de sa course qui est allé au bout. Dans Libération, Grégory Schneider, évidemment, pour les aficionados, raconte la scène avec un autre lyrisme nostalgique. Zidane, dit-il, s'est tué à dire que l'entraîneur qu'il aime n'a existé qu'à travers ses joueurs. Il a défendu ceci tant et plus, éloignant le spectre d'un concurrent à Karim Benzema que réclamait pourtant le peuple et se refusant à prendre acte d'une fin de cycle. Zidane aurait dû être l'architecte d'une reconstruction. Il préfère laisser le boulot à un autre. C'est-à-dire, dit Schneider, qu'il sera resté éternellement fidèle à ces joueurs-là. Il cite aussi Zidane, Schneider, dans ses mots. « Je ne suis pas fatigué d'entraîner, je suis fatigué d'une manière plus globale. La fatigue, Nicolas, est une fidélité. »
Les drogues de synthèse, Claude, nous menacent.
Ces drogues qui nient la fatigue et qui détruisent la vie et qui sont le dossier de la Provence ce matin. Nouvelle drogue de synthèse, NPS, aussi glaçante et artificielle que Zidane est réel et solaire. Ces drogues qui prennent la forme de bonbons et portent les noms de fêtes. Yucatan Fire, Spice, Bouddha Blues, elles sont les petits cailloux d'un voyage au bout de la nuit et de la mort, car elles tuent en France et elles ont tué en Provence l'été dernier. C'est arrivé là-bas, c'est arrivé chez nous, dit le journal. Voilà pourquoi la Provence s'en saisit. C'est un dossier pédagogique pour des adultes qu'ils doivent apprendre. Alors voilà, des molécules chimiques ont été inventées par les laboratoires dans les années 50 pour comprendre les marqueurs du cerveau. Elles sont désormais triturées et produites en Chine, commercialisées sur Internet, sans cesse renouvelées. Ce sont des bombes à retardement. Un autre article dans la Provence raconte le GBL, gamma-butyrolactone, molécule utilisée pour nettoyer les jantes de voitures, mais qui transformée provoque euphorie et exacerbation des sensations, comme sa cousine, la drogue des violeurs, le GHB. Est-elle déjà à Marseille, se demande le journal. Elle est en tout cas en France, cette drogue qui a empoisonné des fêtards dans une soirée parisienne il y a 3 mois. 2 comas, dont un mort. Sur le site du Parisien, un petit article, il date du début de la semaine. Dans le Val-de-Marne, 2 hommes se rencontrent et décident de passer la nuit ensemble. Ils prennent du GHB pour épicer les sensations. Après le sexe, l'un d'eux s'endort. Il ne se réveillera jamais. On meurt de sexe et de drogues mélangées. On appelle ça le chemsex, le chemical sex, le sexe sous chimie, le sexe sous ces drogues de synthèse. Nos journaux en parlent depuis quelques mois. Le Monde, en avril dernier, avait rencontré un jeune homme détruit dans une spirale du désir infini, hébété après un marathon sexuel de 3 jours soutenu par ces cocktails chimiques. Lisez donc, messieurs les adultes. En 2015, le très sérieux Journal of British Medicine avait alerté le Royaume-Uni sur ses sex parties sous drogue de 72 heures et sur le danger pour la santé publique. En 2015, cela fait longtemps, cela dure. Curieusement, Nicolas, on retrouve la drogue dans un grand reportage dont le Figaro fait sa une sur une guerre réelle, celle-là. La guerre oubliée du Yémen, et cette apparition de la drogue rend encore plus incompréhensible les suicides festifs de l'Occident. Au détour d'une rue d'Aden, une grappe de jeunes en haillons mâche le kat, l'herbe euphorisante dont la culture absorbe la moitié des réserves en eau du pays. Ces jeunes gens, racontés par Georges Malbruno, s'évade d'un pays détruit. Le journaliste arpente le pays à la hauteur des simples victimes, sans s'attarder sur les imbroglios de l'affrontement civil. Il raconte simplement des pêcheurs déplacés ou des jeunes drogués. Superbe texte. On apprend aussi dans le Figaro qu'un Français vivant au Yémen avait été capturé, enlevé par des troupes proches des Émiratis, nos alliés, retenu 2 mois avant d'être rendu à sa famille. Il est en train, en France, de mourir d'un cancer.
Un brin d'espérance, enfin, Claude, puisqu'un journal espère changer le monde grâce à un mouton.
Un mouton, le plus innocent des animaux, qui pointe sa bonne tête à la une d'un magazine intellectuel, le nouveau magazine littéraire, créé pour redonner des raisons à la gauche et dont son fondateur, Raphaël Glucksmann, s'étonne d'être lui le rationaliste sensible aux thèses écologistes. Il explique pourquoi, dans un long dossier spirituel où l'on comprend que nous ne retrouverons notre humanité qu'en rendant son humanité au genre animal, car voyez-vous, nous vivons dans un charnier et les cousins de l'innocent mouton de la une crèvent et en peste sur les bateaux qui les emmènent d'Australie vers le Moyen-Orient, où ils seront abattus pour fabriquer nos pulls mérinos, nous dit la philosophe Florence Burga. Et tout se tient alors, une civilisation qui masque la torture, les réseaux commerciaux, l'inhumanisation du monde. Il faut en sortir. Le nouveau magazine littéraire oppose l'utopie de l'homme nouveau augmenté par la technologie à la conscience de notre fragilité que nous donnerons nos animaux. Il y a presque du Zidane dans ce mouton-là.
Merci Claude Askolovitch pour le dernier salto et pour la revue de presse.